Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
De l'air, a-t-on envie de dire, voire de crier, à lire les informations de ces dernières semaines. De l'air, il y en a ici, à Lourdes, et des plus frais. L'air des montagnes pour commencer, spacieuse et paisible. Et puis l'air frais de la grotte, l'air d'une petite femme apparue ici, il y a plus de 150 ans, à sourire aux lèvres, qui semble indiquer comme un chemin pour traverser, accompagner ces épreuves de la vie. Le pèlerinage du Rosaire, édition 2020, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en direct donc depuis les studios de Radio Présence à Lourdes. Pour nous parler de ce pèlerinage, de cette édition qui commence en ce jour, en cette fête de Notre-Dame du Rosaire, allez, honneur aux dames, Anne Lécu, vous êtes religieuse dominicaine, médecin et auteur d'un ouvrage qu'on parcourra à Marie, Lettres parues aux éditions du Cerf. Bonjour.
Bonjour.
Hugues-François Rovarino, vous êtes le grand chef là pendant quelques jours ici. Vous êtes prêtre religieux dominicain et directeur du pèlerinage du Rosaire. Bonjour.
Bonjour.
Et Benoît, vous êtes membre de la direction régionale Midi-Pyrénées, donc on imagine des équipes du Rosaire. Bonjour.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent alors que, on va dire, la fête commence à battre son plein. Alors on va parcourir ce pèlerinage qui est un pèlerinage sur un format un peu spécial. Il n'y a pas autant de pèlerins que d'habitude pour ce pèlerinage qui faisait le plein, qui était en passe de devenir le principal pèlerinage de l'année ici à Lourdes, m'avait-on dit. On va en parler. Et justement, comment ne pas parler tout simplement de l'actualité? Alors avant de parler du Covid, je voulais quand même qu'on commence par une bonne nouvelle, puisqu'on les cherche en ce moment. On peut considérer, nous autres, autour de ce plateau, que l'encyclique du pape François Fratelli Tutti, qui vient donc de sortir, que nous allons commencer à parcourir, encyclique sociale, est aussi une bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, quel est le rapport? C'est une encyclique qui parle donc de fraternité, c'est la traduction de Fratelli, avec des expressions qu'on va découvrir de plus en plus, comme l'amitié sociale ou comme la fraternité universelle. François Grovarino, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que quelque part cette encyclique indique ou dit quelque chose aussi de ce qu'on va essayer de vivre ici pendant 3 jours?
En effet, oui. Elle dit quelque chose parce qu'elle dit précisément que nous sommes tous frères, que tous les habitants de cette planète sont appelés par le Seigneur, ils portent son image, c'est la foi de l'Église. Et en réalité, s'ils veulent pouvoir être au mieux, au moins pour l'Église, il s'agira de vivre de la charité. Et donc, en effet, de porter un regard universel, de bonté, de générosité, d'aider chacun à devenir au mieux ce qu'il est. C'était déjà d'ailleurs la préoccupation du bienheureux Charles de Foucault.
Fratelli Tutti, Anne Lécu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le parcourir, il paraît que ça commence par un constat sombre. Il ne parle pas, je crois, pas directement du Covid-19, si quoique, il en parle. Le constat sombre, c'est celui d'un monde fermé, rempli d'ombre, passablement inquiétant. Il y aurait une forme de régression mondiale. L'histoire est en train de donner des signes de recul, s'inquiète le pape. Je disais en introduction, il y a des moments où on a envie de crier de l'air, on a l'impression que les bottins nous tombent sur la tête les uns derrière les autres, y compris le Covid-19. Vous vous retrouvez un peu dans ce constat avec lequel probablement viennent un certain nombre de pèlerins?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce constat, je pense que toutes les époques, à des moments donnés, ont pu vivre des temps plus sombres et des temps plus joyeux. Je pense que ça nous apprend aussi que l'illusion d'un progrès linéaire n'existe pas, que nous n'allons pas vers un progrès comme tel, mais que peut-être précisément la fraternité est l'antidote aux difficultés du moment et qu'on peut de toute façon rester frères et sœurs les uns des autres, y compris dans des périodes plus sombres. Et peut-être même que la difficulté du moment peut renforcer la fraternité. Et je trouve qu'il faut à la fois peut-être faire ce constat sombre et en même temps surtout ne pas se laisser abattre par cela, parce qu'on a aussi de multiples preuves de solidarité, d'amitié entre les gens, de gens qui ont déployé des trésors d'ingéniosité pour précisément que la fraternité existe. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Alors, la fraternité ici à Lourdes, c'est vrai qu'elle elle paraît assez simple et évidente, surtout quand on se balade dans le sanctuaire. Preuve pourtant que ce lieu est un peu à part, parce que la fraternité, ça se construit aussi à lire le pape François. Mais on en reparlera de cette encyclique. Donc, je le disais, il y a 20 000 pèlerins en général. Là, cette année, la jauge est à 1 500 pour des raisons sanitaires. Peut-être Hugues François, faut-il commencer par cela. J'avais les responsables communication juste avant l'émission, Forto ce matin, qui me disait qu'ici tout est prévu pour que ça se passe très bien, qu'il y avait même du monde cet été dans les montagnes et que les gens n'osent pas venir. On peut venir sans crainte ?
On peut venir sans crainte. Il y a une. D'abord, il y a la jauge administrative, hein, prévue par la préfecture et le sanctuaire, etc., et qui est à 5 000. Donc nous sommes 2 000. Donc les chiffres ont un peu monté là depuis 6 500. Nous sommes à 2 000. Il ne s'agit pas d'arriver en pensant que nous aurons la même édition que les autres. De fait, il y aura un changement radical cette année, puisque nous sommes un peu plus modestement à 10% de nos dernières éditions. Mais
qu'est-ce qu'il y a comme mesures sanitaires pour ceux qui voudraient nous rejoindre ?
Les mesures sanitaires sont celles de
on avance en file dans le sanctuaire, tout ça, à mettre des uns les autres.
En respectant les distances, distanciation physique, en mettant le masque et surtout en mettant du gel sur les mains. C'est évident, mais c'est partout. D'ailleurs, on a besoin de le rappeler, mais les personnes le cherchent, les pèlerins cherchent les moyens sanitaires qu'ils ont, y compris en venant dans les trains, en voiture ou chez eux. Ils ont partout ces moyens. La différence, c'est qu'en effet, ils viennent. Et ça rejoint un peu le propos du pape. Ils viennent ici parce que précisément, ils veulent retrouver l'espérance. Enfin, elle est enfouie en eux, ils la portent, ils en vivent, mais ils voient bien que la période est difficile, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de la pandémie, qu'il y a des conséquences physiques, bien sûr, il y a des conséquences dans leur famille, parmi leurs proches. Beaucoup ont connu soit des défunts, notamment au printemps, etc. Et il y a des zones de France dont ils viennent qui ont été fortement marquées. Donc c'est une épreuve pour particulièrement forte pour beaucoup. Et cependant, on peut aussi craindre qu'à la suite de cette pandémie, il y aura des conséquences, bien sûr, économico-sociales, qui vont être aussi très pesantes. Alors, on va le ressentir. Donc ils viennent renouer avec l'espérance d'une certaine façon.
Alors le thème de votre édition 2020, c'est « Renaître en enfant de lumière ». On peut trouver, alors qu'une immense épreuve s'est maintenant abattue sur le monde et ses habitants sur nos proches, parfois s'ajoutant terriblement à d'autres difficultés, oui, il faut renaître. Enfin, renaître est un défi, dites-vous. Quid de la présence des personnes malades ou fragiles ? J'ai cru comprendre que vous avez fait un choix fort, que les malades ne soient pas présents cette année, en tout cas pas physiquement.
Voilà, exactement. Ils ne sont pas présents, ils ne sont pas présents physiquement. Il n'y a pas que le pèlerinage du Rosaire qui a eu ce choix. Je sais que le pèlerinage national avait fait le même choix.
Le pèlerinage national, c'est celui du 15 août. Du 15 août. Une autre famille spirituelle, les assomptionnistes.
Voilà. Nous avons fait ce choix que les accueils ne puissent accueillir les malades ou personnes handicapées, tous ceux qui nous conduiraient à ne pas respecter, par exemple, les gestes barrières. Ça posait des problèmes sanitaires sérieux, graves. Donc, très vite, on a fait ce choix. Il y a eu un autre choix qui a été en résonance avec celui-ci, c'était précisément comment faire pour que ceux qui ne pourraient pas venir à Lourdes et pour qui Lourdes a encore plus d'importance, et c'est valable d'ailleurs pour les malades, mais c'est valable pour tous ceux qui le servent habituellement, pour
les fameux
hospitalières, et puis en fait ça marque tout le pèlerinage.
Alors comment vous y prenez? Du coup, il y a le pèlerinage en visio dans plusieurs régions de France.
Oui, pèlerinage en visio, et surtout une possibilité par notre site, donc pèlerinage-rosaire.org, la possibilité de découvrir tout ce qui est reconduit, qui est en direct ou qui sera en replay, disponible selon les heures et selon les jours, y compris donc pour des personnes qui pourraient être
aux Caraïbes. Y compris les célébrations.
Y compris les célébrations. Oui, d'accord. Célébrations du matin, les messes, le prédicateur, le frère Pavel Sisoef. Et donc c'est vrai que c'était un moyen de marquer une proximité particulière dans une période troublée.
Alors le programme, peut-être vous pourrez le préciser, hein, évidemment comme à Lourdes, souvent on alterne des temps de prière, de réflexion et de partage. Ce pèlerinage était aussi connu parce qu'il fait venir du monde avec un certain nombre de grands intervenants. Vous en avez aussi encore cette année, on peut citer quelques thèmes, Bernadette et nous, l'au-delà quand sait-on au juste, épidémie et confinement, leçon éthique d'une expérience de fragilité, tu es malade et je t'ai visité. Qu'est-ce qui a guidé le choix de ces intervenants, si vous deviez retirer, entre autres, on commence, alors vous avez cité le frère Pavel Sisoef, qui est le prédicateur cette année, courage d'espérer, il y a aussi le fameux Martin Stephens, qui vient de la vie donnée à la vie reçue, les conférences, quel est le fil conducteur?
Alors, au départ, le fil conducteur, évidemment, c'était la marque du thème de l'Immaculée Conception avec notre perception à nous, parce que justement si l'Immaculée Conception se manifeste dans cette grotte, c'est pour permettre à Bernadette et à chacun d'entre nous de renaître en enfant de lumière. Donc c'était un vrai dialogue à l'intérieur du thème et donc la recherche de personnes qui pourraient illustrer ce thème et particulièrement donc Martin Stephens qui en plus est actuellement l'auteur d'une méditation mariale mais aussi de pièces de musique. Et donc c'est vrai qu'au fond ça c'était à l'époque, on n'avait pas encore le Covid, mais on savait que le pèlerinage commençait par la célébration de Notre-Dame du Rosaire. Donc il y avait là une marque mariale, voulue, comme pour la présence de Sœur Anne Lécu. Enfin, vraiment, c'était un axe fort.
Marque mariale, et donc la question de la fragilité aussi.
La question de la fragilité qui est arrivée assez vite. Voilà.
D'autant plus prégnante cette année.
C'est marqué assez vite. Donc avant même qu'on en arrive à fermer le sanctuaire le 17 mars, il y a déjà eu un frémissement au mois de février, et puis très vite un emballement de cette pandémie. Et donc on a dit il est nécessaire que dans une année, parce qu'on va aussi illustrer l'année Laudato aussi, mais dans cette année, fait irruption la difficulté, une difficulté sanitaire majeure qui révèle un nouveau mode de réaction et de vie à l'intérieur d'une zone de fragilité. Notre monde devient fragile.
Voilà,
on n'en avait pas tellement conscience. C'était une réalité. Hein, mais...
Et les responsables du sanctuaire, comme illustration, quelque part, disent que Lourdes, du coup, aujourd'hui, a tous les handicaps, puisque à Lourdes viennent les personnes, justement, particulièrement les personnes malades, âgées et fragiles, et qu'il y a de moins en moins de monde, s'en désole-t-il. Mais ça en dit long, justement, sur peut-être cette grande question qui traverse notre société. On va faire une première pause, et puis on va vous retrouver pour parler plus largement aussi du rosaire. Je rappelle 2-3 informations pratiques pour ceux qui nous quitteraient dès maintenant. Pèlerinage-rosaire.org, c'est bien ça, pour suivre tout le pèlerinage à distance, mais vous pouvez venir aussi. Hein. 1500 pèlerins attendus et la jauge est à 5000, il y a encore de la place. Et puis je rappelle le titre de votre livre, Anne Lécu, à Marie, lettre parue aux éditions du Cerf. Thank you.
Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit humilitate mos ille sui, ex se enim ex hoc beatam medisent beatam omnes generationes, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Pèlerinage du Rosaire 2020, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce mercredi 7 octobre, donc fête de Notre-Dame du Rosaire, commencée à Lourdes ici, le fameux pèlerinage du Rosaire emmené par la famille dominicaine. Pour nous en parler et nous mettre dans l'ambiance, Hugues-François Rovarino, vous êtes donc prêtre, pour rappel, religieux dominicain et directeur de ce pèlerinage du Rosaire, Anne Lécu, religieuse dominicaine, médecin, auteur de « À Marie, lettres » paru aux éditions du Cerf et Benoît, qui est membre de la direction régionale Midi-Pyrénées, donc pour ce pèlerinage. Alors, on pourra revenir, hein, si vous voulez, sur le rythme de ces journées, sur les raisons pour lesquelles on peut venir, sur l'une ou l'autre conférence. Je me disais aussi, et ça ne vous surprendra guère, puisque c'est une partie, j'allais dire, de votre métier, qu'il faut toujours partir du principe que certains de nos auditeurs ne sont pas familiers ni de la Vierge Marie, ni de Lourdes, ni de cette prière qui est la prière du Rosaire. Alors vous me disiez pendant la pause, je vous posais la question, pardon, à Lourdes, Marie est-elle apparue avec un rosaire, donc un chapelet ? Réponse, Hugues-François Rovarino, a-t-elle fait de la publicité pour cette prière qui est le nom de votre pèlerinage ?
Alors elle ne venait pas pour ça, donc en effet elle n'a pas fait directement de la publicité.
Elle n'a pas parlé des Dominicains.
Elle n'a pas parlé des Dominicains, elle n'a pas le temps peut-être, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'elle avait un rosaire qui pourrait intriguer. On le verra, la statue de Notre-Dame de la Vierge couronnée, qui est le repère habituel des pèlerins, quand les pèlerins sont perdus, où est-ce qu'il faut aller ? Il faut aller à la Vierge couronnée, donc sur l'esplanade devant la basilique du rosaire. Et on demande souvent aux enfants, mais est-ce que tu as bien regardé le chapelet de la Vierge Marie ? Il y a combien de dizaines ? Alors, les enfants veulent, ceux qui connaissent veulent aussitôt répondre, et donc, avant même de regarder, ils répondent, et ils disent 5 dizaines, parce qu'en effet, habituellement, un chapelet est fait de 5 dizaines, du Je vous salue Marie, avec
mais,
un autre
mais
père.
Il y a un piège.
Et là, il y a un piège, parce que, justement, quand ce rosaire est celui qui, enfin, il est fait de 6 dizaines, parce qu'il y avait une tradition bigourdane, que connaissait Sainte Bernadette, qui était de la prière. Une dizaine de chapelets étaient dites pour les âmes du purgatoire et pour les défunts. Et donc, en effet, on trouve une dizaine particulière sur le rosaire.
Alors ça, c'est, on va dire, c'est pour le quiz du rosaire. Si on repart un tout petit peu plus loin, je me suis plongé dans la lettre de Jean-Paul II qui s'appelait Rosarium Virginis Maria, donc lettre apostolique donc de ce pape qui maintenant est déclaré saint, qui donc en 2002, si je ne me trompe pas, donc nous a parlé du rosaire, ajoutant même des mystères. On va voir un peu ce que sont que les mystères. Alors il commençait entre autres par les objections. On va partir du principe que même ceux qui nous écoutent et qui ont une petite pratique pratiques parfois sont pas très à l'aise avec cette prière. Voilà, des objections, elles sont nombreuses. Peut-être l'objection qui nous vient le plus souvent, c'est que ça fait une place trop importante à Marie. Mais là, le pape François soulignait que ça paraît, entre guillemets, pas très liturgique. Voilà, le rosaire, on se dit, on a déjà, on va dire, la vie de l'Église. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter à cette prière? Alors, Anne Lécu, on va pas déflorer votre livre qu'on parcourra. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux sceptiques à l'égard du rosaire, à ceux qui n'ont pas l'habitude de cette prière toute simple?
Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'au début, il y avait donc... un rosaire, c'est trois chapelets. Ça veut dire que c'est trois fois cinq dizaines. Ça fait donc 150, je vous salue Marie.
Il y a quand même de quoi se décourager.
Il y a quand même de quoi se décourager, mais en fin de compte, c'est vraiment l'idée, c'est de copier pour les laïcs ou pour les gens qui sont au champ ou qui sont occupés à des travaux manuels, les 150 psaumes que les moines peuvent chanter dans la liturgie des heures. Donc c'est une manière de dire, la prière, elle est pour tous. Vous connaissez peut-être pas les psaumes par cœur parce que vous avez d'autres choses à faire fort intéressantes, mais vous pouvez quand même prier en essayant de mettre, et ça c'est le deuxième point, le Christ au centre, parce qu'au bout du compte, méditer les mystères du rosaire, c'est méditer la vie de Jésus avec Marie. Et donc c'est prier avec Marie. Et par exemple, on peut rajouter des petites gloses à chaque « Je vous salue Marie ». Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, et là on rajoute un petit morceau qui nous plaît. Et Jésus qui a partagé la vie des siens. Et Jésus qui a aimé vivre, manger et boire avec ses disciples. Et Jésus qui a multiplié le vin, qui a multiplié le pain, etc. Et donc cette petite partie qu'on rajoute permet finalement de redécouvrir le texte de l'Évangile, de méditer la vie du Christ avec Marie. Donc c'est pas du tout une prière qui serait, comment dire, une prière à Marie, mais c'est avant tout une prière au Christ avec Marie. Et c'est pour ça qu'elle est centrale.
Et dans la grande tradition de la liturgie, à vous entendre, puisque c'est une manière... En tout cas, on dit que c'est une prière qui remonte à plus loin que les dominicains, que le premier moine, justement, au début, c'était des moines, justement, qui récitaient au chant. C'est « Je vous salue Marie » parce que...
Ils n'avaient pas le psautier sous les yeux.
Ou c'était des frères converts, c'est ça? Du coup,
c'était
pas forcément l'office.
C'était des frères converts, certainement. C'était des gens, en tout cas, qui étaient moins lettrés que les moines. Et puis, qui avaient aussi un travail qui les empêchait de rejoindre le...
Alors, autre réserve ou objection du rosaire que soulignait Jean-Paul II, vous me direz, celle-là, elle pourrait donner lieu à une émission entière. Mais je pense qu'elle traverse l'esprit peut-être de certains, c'est qu'on se dit qu'elle n'est pas très œcuménique. Voilà, quand on arrive à Lourdes, il y a quelque chose d'un peu excluant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sens que vous vous lancez du regard, la patate chaude. Allez, Anne Lécu, patate chaude.
Pas très économique. Je crois que pour tous les chrétiens, je pense que Marie reste une figure. Donc, il reste la mère du Christ. Et donc, pour quel chrétien, cette prière n'aurait pas de sens? Voilà. Donc, oui, je pense que c'est en ça où je pense qu'elle rejoint tous les chrétiens du monde.
Et puis encore une fois, si c'est prier avec Marie, je pense que n'importe quel chrétien peut prier avec Marie, le Christ.
Et puis il y a une place dans les Écritures pour la Vierge Marie. Donc c'est vrai qu'elle n'aura pas forcément le même retentissement dans toutes les confessions chrétiennes, mais elle aura une vraie place.
Bon, vous vous en sortez bien. Je sens que je vous ai presque piégé, mais vous vous en sortez bien. Allez, dites-nous un petit peu aussi quelque chose de l'histoire des Dominicains avec le rosaire. C'est pareil, ça pourrait donner lieu à bien des émissions, mais c'est quand même difficile de faire l'impasse. Si votre famille est en charge de la vulgarisation ou de la connaissance du rosaire, un postulat soutenu par les papes au long de l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a une raison à cela. Quelle est la raison, Hugues-François Rovarino?
La raison, elle est toute simple, c'est une question de prédication. Donc il s'agit de passer du cloître, on a évoqué la question des religieux qui est au cœur, méditer les psaumes, etc. Il s'agit de passer de la religion du cloître à une religion rendue possible à tout le monde. Et donc c'est vrai que les 150 psaumes deviennent les 150 « Je vous salue Marie ». Il est vrai aussi qu'il y a un travail de mémorisation infiniment plus facile avec le rosaire. il y a aussi ce qu'on indiquait tout à l'heure, ce qu'on indiquait Saint-Nicaise, c'était le.
Mais pourquoi les Dominicains? Pourquoi
les Dominicains? Parce que cette préoccupation de la prédication enracinée dans un vrai terreau spirituel a été portée par les Dominicains. Ils sont nés pour cela quand même. Enfin, pour prêcher, pour répondre à une soif contemporaine. Et donc, c'est vrai que un Dominicain, alors c'est bien là le grand. Le grand passage, c'est qu'il y a un Dominicain particulier, le bienheureux Alain de la Roche, qui, au XVe siècle, en 1471, a fondé à Douai la première confrérie du rosaire, où il s'agissait de permettre à tout un chacun de se regrouper avec d'autres et de prier ensemble ce qu'on a appelé le psautier de Marie. Et le psautier de la Vierge, enfin, il y avait à la fois
une référence du Concile Vatican II, j'ai envie de dire. Non,
c'est en tout cas, c'était l'idée, oui, de rendre possible un enracinement spirituel pour tout le monde. Alors, il est vrai qu'en constituant des confréries, c'était comme cela au départ, il y a eu aussi une mutualité, un groupe chrétien, un groupe catholique de personnes qui prient ensemble. Et avec une prière liée directement au Christ, hein, le Je vous salue Marie, c'est une prière christologique, et le Jésus-Christ est marqué, ce sont les paroles de l'ange à Marie, et les paroles d'Élisabeth, mais en attendant, il s'agit bel et bien d'une prière christologique, et donc pour le coup, tous les papes l'ont bien sûr rappelé, et d'avoir permis ce développement, ça a aidé aussi la mission de l'Église, d'où le rayonnement de cette prière qui est passée de la vie autour des frères à une vie de toute l'Église, y compris les missionnaires qui sont partis partout dans le monde avec cette prière simple.
Benoît, vous êtes membre donc de la direction régionale pour ce pèlerinage Midi-Pyrénées. Quand on essaye de convaincre les gens de venir au pèlerinage du Rosaire, j'imagine comme vous et comme d'autres, bref, de faire vivre en fait ce pèlerinage au long de l'année, avec ce grand point d'orgue, est-ce que dans le fond c'est ce qu'on leur dit, c'est-à-dire que c'est une manière d'entrer dans la vie chrétienne, presque, j'ai envie de dire,
entendre... Ah, complètement. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai découvert il y a 3-4 ans, quand j'ai fait mon premier pèlerinage. C'est la fraternité. On passe de la confrérie à la fraternité universelle. Et là, la fraternité universelle, on la vit. On la vit comme nulle part ailleurs. C'est intense. C'est universel, parce qu'on vient de toutes parts, de tous milieux. Avec tous nos forces et nos faiblesses, et puis ici pas mal avec nos faiblesses. Oui, c'est vraiment un moment intense et de prière, d'échange, d'écoute, de mise au service de l'autre. Voilà ce qu'on découvre ici. Ouais.
Alors qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage du Rosaire? C'est quoi en fait? Toute l'année vous travaillez pour que les gens viennent ici et qu'ils soient le plus nombreux possible, ou est-ce qu'il y a aussi une vie en soi de ce pèlerinage au long cours qui travaille un peu à creuser ce sillon que vous venez de décrire?
Oui, alors, bon, c'est sûr que le moment privilégié, bien sûr, c'est le pèlerinage. Et puis on en reparlera peut-être un petit peu de la façon dont ça se déroule. Et effectivement, au cours de l'année, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées aux gens qui participent au pèlerinage, ce qui leur permet de se retrouver, en général deux, peut-être trois, suivant les régions. Réunion où justement les brancardiers, les hospitaliers, les pèlerins d'accueil vivent un temps d'échange, de prière, d'écoute de la parole, de conférence aussi. Donc voilà, il y a ces activités. Je crois qu'il y a des projets aussi pour aller un peu plus vers les jeunes, parce que c'est un pèlerinage qui a aussi besoin de se renouveler dans ses équipes. On a besoin de bras. Hein, et
même si normalement, je ne sais pas si c'est le cas cette année, mais il y a souvent beaucoup de jeunes à ce pèlerinage quand même. Enfin, on en voit en tout cas dans Lourdes.
Oui, oui, tout à fait. Oui, il y a des jeunes. Hein, oui.
Lors du pèlerinage.
Il y a souvent des lycées qui
viennent. Ah, oui, effectivement. Rien que pour la région Midi-Pyrénées, habituellement, c'est 200 jeunes qui viennent participer à ce pèlerinage, tout à fait.
Hugues-François Rovarino, si on revient un tout petit peu sur le pèlerinage, avant qu'on fasse une deuxième pause et puis qu'on donne un peu plus la parole à Sœur Anne Lécu pour essayer de nous introduire, on va dire, à une relation personnelle avec la Vierge Marie, avec son ouvrage Marie, lettres, où elle commence, c'est une série de lettres, hein, commencée en décembre de l'année dernière, où elle parle à la Vierge. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voudriez souligner ? Il y aurait de multiples choses à propos de ce pèlerinage, pas forcément faire, on va dire, le catalogue. Moi, il y a une phrase toujours dans ce texte-là de Jean-Paul II, Rosarium Virginis Maria, qui m'a un petit peu interpellé. Je me suis dit que ça pouvait parler. On peut dire que chaque mystère du rosaire bien médité éclaire le mystère de l'homme. Ça paraît être loin des bondieuseries, là. Ça veut dire quoi ? Si on vient, on ne va pas forcément se tourner que vers quelqu'un, on ne va pas faire que prier, mais en fait, on va découvrir des choses aussi sur soi, sur l'homme.
On découvre toujours quelque chose sur soi quand on prie. c'est aussi une réalité. Et bien sûr, quand on imagine quelqu'un qui prie, il va porter les intentions, il a quelque chose à demander.
On peut avoir une image très piétiste de Lourdes.
Oui, c'est la première des choses, on va penser forcément. Et puis, on va aussi découvrir comment tout ce que le Seigneur a pu dire, ou penser aussi aux autres qui ont compté dans notre existence, ou peut-être dont on prend conscience à ce moment-là. Et puis, on va aussi découvrir peu à peu qui on est. Sainte Catherine de Sienne parlait de cette cellule de la connaissance de soi, ben oui, on le découvre particulièrement dans la prière. Donc, en réalité, c'est vrai qu'on renaît en enfant de lumière, ça serait le thème de cette année, mais en fait, cette lumière va nous éclairer aussi. Ne pas laisser les ténèbres nous parler, devenir un enfant de lumière, et c'est quand même aussi une grâce de la prière.
Anne Lécu, qu'est-ce que vous diriez ? Bien méditer, elle éclaire le mystère de l'homme.
Mais justement, je pense qu'on non seulement on vient prier, mais on vient prier ensemble. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'autour de cette table ce matin, un laïc, un frère, une sœur. Ça, c'est le pèlerinage du rosaire.
Rien de surprenant, c'est voilà. Le cas de bien la plupart des pèlerinages.
Oui, tout à fait. Mais c'est ensemble qu'on vient prier. C'est-à-dire que c'est pas surprenant, mais c'est surprenant, sans doute pour des gens qui sont isolés tout le reste de l'année, de se retrouver ensemble à porter les inquiétudes toutes personnelles qui sont peut-être pas ceux du voisin, mais voilà qu'on y est ensemble. Et voilà que ce qui me concerne moi, finalement, concerne tout le monde. Ce qui fait que le lien qui existe entre nous, moi c'est ça que j'entends dans la phrase de Jean-Paul II, c'est qu'elle nous fait découvrir que le plus spirituel, c'est peut-être cette fraternité, justement, qui se tisse au cœur des vulnérabilités que nous avons tous et avec lesquelles nous venons ici.
Ben vous auriez pu inspirer Fratelli Tutti, hein, du pape François, cette encyclique qui vient de paraître, encyclique sociale. En tout cas, pour l'instant, c'est pas l'encyclique qu'il faut lire, il faut venir ici au pèlerinage qui commence ce matin et ce pendant 3 jours. Voilà, des temps de prière, tout ça dans des conditions évidemment sanitaires respectées, sans danger. Il faut le dire et le re-redire et le re-redire, car la peur est parfois dans les têtes plutôt qu'ailleurs. Et puis, un pèlerinage donc accompagné cette année par le frère Pavel Sisoyev, avec une conférence « Courage d'espérer » et autres invités comme Martin Stephens, connu aussi peut-être de nos auditeurs. On fait une deuxième pause et on vous retrouve. On va parcourir cet ouvrage, Anne Lécu, que vous avez écrit à Marie, « Lettres », paru aux éditions du Cerf.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Pèlerinage du Rosaire 2020, c'est donc pour rappel tout simplement le thème de cette émission Vivante Église, en direct donc depuis nos studios à Lourdes où commence le pèlerinage. Ce pèlerinage dans un format réduit, mais on va dire l'ambiance festive est au rendez-vous. Pour nous en parler, pour ceux qui nous rejoindraient, Hugues-François Rovarino, qui est donc dominicain et directeur de ce pèlerinage du Rosaire, Anne Lécu, elle-même dominicaine, et médecin, et Benoît, vous êtes membre de la direction régionale Midi-Pyrénées de ce pèlerinage. Dans cette dernière partie, on s'est dit, en s'adressant à tous, qu'on allait essayer de trouver à illustrer ce à quoi peut ressembler une relation, on va dire, personnelle avec Marie. Alors, on est certes sur une radio chrétienne, mais il faut quand même toujours se dire que ça ne va pas forcément de soi, et les mystères de la vie chrétienne peuvent rester, on va dire, des folies aux yeux de certains d'entre nous, et je pense d'un certain nombre d'auditeurs. Anne Lécu, vous avez écrit un livre donc, qui s'appelle « À Marie, lettres ». Vous avez commencé en décembre 2019 à vous adresser à la Vierge. Alors, j'ai picoré dans cet ouvrage un certain nombre de choses. Et puis, entre autres ça, quand j'étais enfant, je t'ai beaucoup parlé, dites-vous. Et puis, en grandissant, je t'ai laissé effrayer des dévots qui, en gros, ne vous donnaient pas un juste visage. Je me plante sur la fin de la citation parce que j'arrive pas à me relire. Mais on entend que vous avez eu, merci de votre mensuétude, on entend que vous êtes adressé à Marie, puis après vous vous êtes éloigné. En tout cas, vous commencez par ça. Pourquoi vous avez commencé par ça ?
Bah parce que c'est la réalité, tout simplement. Alors moi, je suis une habituée du pèlerinage du Rosaire que je fréquente depuis quasiment que je suis novice, donc depuis près de 25 ans maintenant. Et c'est très paradoxal parce qu'en fin de compte, je n'ai pas tellement une dévotion mariale comme j'imagine ce que c'est qu'une dévotion mariale. Mais ce qui me touche beaucoup à Lourdes, c'est vraiment la foi des gens. Et du coup, je suis vraiment à l'école de la foi des gens quand je viens ici. Et cette année, en relisant, enfin en écoutant la parole de Dieu qui nous est offerte avant Noël, pendant l'Avent, il y a eu cette phrase que l'ange vient dire à Joseph « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ». Et je me suis dit, mais oui, quand même, c'est peut-être une bonne idée, cette histoire. Et donc, j'ai commencé à relire.
Ça m'a fait sourire. Je me suis dit, tiens, une dominicaine qui tout d'un coup se...
Mais
comme
qui
quoi,
tout d'un
hein,
coup,
on est tous en chemin.
Exactement. Faut pas... Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et du coup, c'est vrai que je me rappelle très bien, petite, parler à Marie, ça ne me posait pas de problème. Et puis après, ça s'est complètement effacé. Mais sans doute parce que je parlais à des statues. Et parler à une statue, ça ne marche pas.
Vous n'allez pas retrouver la citation, peut-être vous aussi. Mais qu'est-ce qui vous effrayait, en fait, dans...
Je crois que c'est de parler à une statue, en fait. Je pense que c'est le côté. Dévot tel que, enfin, lui le côté statue en plâtre. Et moi, je crois que je ne peux pas parler à une statue en plâtre. Et du coup, j'ai repris les Évangiles, j'ai cherché la trace de Marie et j'ai commencé à lui écrire. Alors d'abord, j'ai joué avec ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à lui écrire pour moi, pour le fun, enfin voilà. Et puis je me suis dit que je découvrais du coup une Marie en chair et en os, qui était vivante, qui était une jeune femme, qui savait où elle allait, qui savait où elle habitait, qui savait ce qu'elle voulait. Et du coup, je me suis remise à lui parler en lui écrivant.
Alors vous vous adressez à elle comme ça et vous dites « À quoi rêvais-tu, Marie, lorsque tu étais, lors de tes nuits ou lorsque tu étais enfant ?» c'est pas la première chose à laquelle on pense que Marie a été une femme comme nous. En l'occurrence, quand on vient à Lourdes, en plus, on lève la tête. Elle nous surplombe. Il faut partir de ça, vous pensez ?
Moi, je pense qu'il faut justement arrêter de lever la tête et repartir, baisser la tête pour lire ce que les textes nous disent d'elle et en faire notre amie, en fait. Et je crois que ça, la parole de Dieu nous laisse cette liberté. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes petits camarades sur le plateau. Elle nous laisse la liberté d'imaginer comment elle était quand elle était jeune. Elle est toute jeune, Marie, quand l'ange vient la visiter. C'est une ado. Comment est-ce qu'elle était ? Comment elle rêvait sa vie ? Qu'est-ce qu'elle imaginait de son avenir ? Et c'est ça que j'avais envie de lui demander.
Hugues-François Rovarino, c'est dans le fond, on va dire, le difficile métier de médiateur de la foi ou de religieux, de dominicain, que d'essayer de toujours et encore de revisiter les mystères de la foi chrétienne pour les rendre accessibles et vivants. Mais de fait, est-ce qu'on ne peut pas aussi pendant des années même avoir l'habitude d'une prière à Marie, mais que Marie soit loin ?
Elle n'est pas loin. Enfin,
on vous croit sur parole, mais il va falloir quand même nous en dire un peu plus.
Non, mais c'est vrai, mais avoir l'habitude d'une prière à Marie, mais fait. Donc si on se tourne vers elle, on a un peu l'habitude déjà. Enfin. Mais en effet, pas forcément dans les canons consacrés, ça c'est possible. Mais en réalité...
On peut se tourner vers Marie aussi comme une lointaine espérance, en se disant, oui. Bon, espérons qu'elle existe et qu'elle va m'entendre.
Oui, et puis... Enfin,
mais pas forcément de...
Oui, on y va de multiples façons, parce qu'en fait, c'est une prière que l'on va vivre selon le tempérament que l'on a, selon les époques de la vie, selon les situations dans lesquelles on se trouve. Il y a des moments, en effet, où c'est plus facile que pour d'autres. Et puis, il y a des moments aussi où on fait attention à telle parole de la Bible qui va nous... Telle parole de l'Évangile qui va tout d'un coup prendre cher. Enfin, tout d'un coup, elle veut dire quelque chose. On l'a entendu mille fois, mais on n'a jamais fait attention.
Mais faut-il faire le pas un jour de s'adresser à Marie, on va dire, personnellement, en dehors, justement, des prières, on va dire, classiques que sont le « Je vous salue Marie » ou autres?
Oui,
on ne cultive pas une relation
en
faisant des prières. C'est...
Ouais, mais ils sont déjà.
C'est une chose qu'on peut faire ici,
Benoît.
Surtout quand on vient devant la grotte, là, c'est de faire silence et se laisser illuminer par la Vierge, tout simplement. Se faire bronzer par la Vierge.
Ça veut dire quoi, ça?
Bah, ça veut dire tout simplement écouter, faire silence, laisser le Christ parler en nous, laisser la Vierge parler en nous. Tout simplement, prendre un temps de...
C'est-à-dire que vous, quand vous arrivez devant la grotte à Lourdes, donc vous mettez en silence, au fond du silence, parfois vous vous entendez à la voix de la Vierge.
C'est
d'une certaine manière.
D'une certaine manière, c'est un moment de, voilà, aussi de d'arrêt et de contemplation, voilà, où on peut se poser, en fait. Et puis c'est ce qu'on vit, en fait, avec aussi les pèlerins d'accueil, hein. C'est un moment où justement tout le monde se pose, eux aussi se posent. C'est un moment de relaxation aussi, hein, et un moment justement où on peut avoir des échanges et des prières en commun.
Oui. Alors juste, Anne-Lécu, je voudrais juste rebondir sur votre ouvrage pour essayer d'une certaine manière un peu de donner la parole aussi aux plus fragiles, aux plus pauvres qui viennent normalement ici et qui cette année le vivront de manière médiatisée, on l'a bien compris, à travers ce pèlerinage, puisque donc ils ne sont pas là, mais ils peuvent le suivre au loin. Vous êtes aussi médecin en prison, et il y a dans une de vos lettres, donc vous faites écho à ce que vous avez vécu dans la journée, vous parlez d'une femme seule qui va accoucher, que son mari vit au loin, vit au-delà des mers et on ne sait pas encore s'il existe, et vous vous adressez à Marie en lui confiant cette femme, en lui disant ces femmes sont vos sœurs, et puis vous ajoutez ce mot, je crois que c'est dans la même lettre, ton humiliation est peut-être aussi ton secret. Il y a quelque chose qu'on oublie peut-être souvent à propos de Marie, en tout cas ce qu'on peut en lire dans les Écritures, c'est que c'était une pauvre quelque part, non ?
Alors c'est une pauvre, et dans le Magnificat, elle le dit bien, ça. Elle dit, le Seigneur a jeté les yeux, alors nous on dit pudiquement sur son humble servante. Le texte grec dit sur l'humiliation de sa servante, sur l'humiliation de son esclave. Donc je pense que
le
Marie...
grec dit esclave.
Oui, c'est le même mot pour dire servante et esclave, donc sur l'humiliation de ton esclave. Et du coup, il me semble que, enfin, ce que j'aime à découvrir, et ce que ce temps à passer à écrire des lettres à Marie m'a fait découvrir, c'est qu'elle est vraiment notre compagne. C'est-à-dire, c'est l'une de nous, Marie. Marie, c'est pas quelqu'un qui serait séparé de nous, qui serait exceptionnel et qui serait inatteignable. C'est l'une de nous qui nous montre ce à quoi on peut tous être appelés. Et ça, vraiment, pour moi, c'est ça le cœur du message de Marie, c'est que elle est immaculée. Parce que nous sommes tous appelés à devenir immaculés comme elle l'est déjà. Elle a porté le Christ pour le faire naître au monde. Et bien, nous sommes tous appelés à laisser en nous le Christ naître au monde.
Quel rapport avec les pauvretés et l'humiliation, là ?
Et bien, justement, parce qu'elle est bien du côté des pauvres. C'est précisément parce que c'est une pauvre que chacun d'entre nous, y compris ceux qui sont au fond du trou, qui imaginent qu'ils en sont indignes, qui peuvent le vivre et le faire. C'est ça qui est le nœud de l'histoire. Marie, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle qui serait je ne sais pas qui. Marie, c'est une pauvre, une jeune femme qui, à mon avis, elle est exceptionnelle en ce sens qu'elle est absolument entièrement présente à ce qu'elle fait et à ce qu'elle vit. Et donc c'est ça, le fait qu'elle dise oui à Dieu, c'est parce qu'elle est là et qu'elle accepte, elle prend un risque incroyable, elle ne sait pas où ça va l'emmener. Mais ça veut aussi dire que chacun d'entre nous, nous pouvons accepter que Dieu vienne dans nos vies transforme notre existence, y compris si nous sommes, si on a l'impression qu'on en est parfaitement indigne.
Alors vous avez une phrase justement là-dessus, vous dites que les humiliations que Marie a pu subir sont entre autres ceux de peut-être la calomnie, des médisances, et puis vous avez cette phrase, les pires sont les voix intérieures qui murmurent à l'oreille des pauvres, pardon je vais le redire, le pire ce sont ces voix intérieures qui murmurent à l'oreille des pauvres que nous sommes, ces voix qui nous murmurent tous un jour ou l'autre, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas capable de cela, tu n'es pas aimé car tu n'es pas aimable, il aurait mieux valu pour toi ne pas être. On imagine qu'il y a bien des gens qui normalement ici se pressent, qui font partie de ce peuple à qui ces phrases résonnent un peu trop souvent aux oreilles. Marie, là on vous forçait pas le trait, c'est pas l'imagination de la théologienne ou de la...
C'est l'imagination si on veut, mais je crois vraiment que si elle est l'une de nous, en mon sens elle est immaculée parce qu'elle résiste à ces voix-là, parce qu'elle se laisse pas entraîner par ces voix-là. Mais personne ne dit qu'elle ne les a pas entendues, enfin j'en sais rien. Mais on peut imaginer aussi que si elle est l'une de nous, à un moment donné elle a pu se dire « mais est-ce que j'ai vécu, enfin, cet ange qui débarque dans ma vie comme ça, est-ce que c'est bien vrai ?» De même que nous, on peut se dire, un jour ou l'autre dans nos existences, la foi qui est la mienne, est-ce que je me trompe pas ? Est-ce que c'est bien Dieu ? Est-ce que je me fais pas mon film ? Et ce qui compte, c'est de résister à ces voix-là. Et Marie nous dit que chacun d'entre nous, y compris le plus abîmé, le plus pauvre, peut résister à ces voix-là et peut un jour croire que sa vie a du prix.
Mais c'est ce qu'elle a entendu certainement au pied de la croix. Mais qu'est-ce qu'elle a dû entendre au pied de la croix ?
Bien sûr, enfin, au pied de la croix, c'est quand même une tragédie. Quoi.
La tragédie, tout ça.
Et elle est debout au pied de la croix.
Allez, une dernière phrase, et j'allais dire que je vais jeter en pâture, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Non, une dernière phrase, peut-être pour éclairer et reboucler avec le début de cette émission. Notre époque, une phrase tirée de votre livre, Marie, donc Lettre. Notre époque est spécialement en ce moment, vous dites en Europe occidentale, est propre à cette foi nue. Vous évoquez un peu plus haut la foi nue, sans preuve ni assurance, qui justement probablement a été celle de Marie au pied de la croix, il me semble que c'est à cette occasion que vous en parlez, et vous dites que c'est à la fois un grand malheur et une chance. Alors pourquoi est-ce que vous dites que c'est un malheur et une chance, elle n'est que cette foi nue que l'on peut vivre chacun un jour, qu'aurait vécu donc la Vierge au pied de la croix, et dont on se sent un petit peu familier dans ce contexte difficile?
Alors c'est un grand malheur, je pense que pour le coup, en étant à Lourdes aujourd'hui, on s'en rend très bien compte. Alors, les sanctuaires sont quand même pas très remplis, c'est le moins qu'on puisse dire. Le malheur économique de la ville de Lourdes, on en a bien conscience, et des habitants. Et donc ça, c'est un état de fait, et je trouve qu'en plus, ça a une sérieuse consonance avec ce que peut vivre l'Église, l'année qu'on a passée, avec les scandales dont on a entendu parler. Donc on n'est pas dans une ambiance forcément folichon. Et pour autant... Et donc ça, je pense que ça résonne avec le mystère pascal, avec le fait que la vie du Christ est un échec. Et donc c'est pas tellement étonnant que parfois la vie de l'Église soit un échec, puisque le Christ lui-même a traversé l'échec. Et en même temps, c'est une chance, parce que je pense qu'on n'a plus du tout les moyens d'être dans une position de chrétien triomphant, d'Église triomphante. On est extrêmement pauvre, on n'a que le Christ à offrir, et rien d'autre.
Mais on a au moins la foi, enfin la foi nue, on sent
que
c'est une foi
douloureuse. Oui, mais la foi nue, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a que le Christ à offrir, et le Christ, il se fait proche de chacun d'entre nous, parce qu'il est le frère de chacun d'entre nous, et donc il se fait tellement pauvre. Imaginez à Noël, moi j'aime cette scène de la nativité, où Marie, elle est obligée de déménager pour aller à Bethléem, alors qu'elle est enceinte jusqu'aux dents, pour accoucher dans un courant d'air, hein, dans une arrière-cour de ferme, ça pue, enfin, c'est vraiment pas ça. Enfin, elle doit être paniquée en train de se dire, c'est son premier bébé, comment elle va faire, voilà. Eh bien, Dieu s'abaisse jusque-là, pour que nous, quand nous sommes au fond de l'étable, complètement perdus, isolés, dans le froid, nous puissions croire que Dieu nous rejoint. Ça, c'est quand même une vraie bonne nouvelle.
Et ben voilà, bergers, bergères, venez à Lourdes.
Venez, c'est vrai.
Ce ne sont pas des anges qui vous le disent, je les ai en chair et en os, mais...
Il y a de la place pour tous.
Il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu au micro de cette émission ce matin pour parler de ce pèlerinage du Rosaire qui, je le rappelle, donc commence aujourd'hui, 3 jours de festivités ici à Lourdes. Vous pouvez venir, il faut donc le dire et le redire, aucun risque, aucun danger. toutes les conditions, on va dire, sanitaires se sont respectées et même plus que cela. Et si par hasard vous ne pouvez pas vous déplacer, pèlerinage-rosaire.org, pèlerinage-rosaire.org, si vous n'avez pas internet chez vous, vous allez toquer à la porte de la voisine, voire même de la maison diocésaine et on vous fera de la place. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la écouter ce soir à 21h ou le retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.